J'ai entrepris donc depuis 2 semaines, deux dimanches, d'essayer de vous expliquer dans le cadre de l'incarnation que nous allons fêter le 25 décembre, j'essaie de vous expliquer les conséquences de l'incarnation et notamment essentiellement dans mes propos actuels, en commentant ou en interprétant les quelques passages, quelques épîtres de Saint Paul, pas des épîtres entières, mais quelques passages significatifs et particulièrement marquants, lesquels, je crois, sont des passages clés qui permettent non pas de découvrir tout le mystère de notre relation avec Dieu, mais qui nous permettent de toucher ce mystère et de percevoir quelque chose de notre relation avec le Christ qui nous unit au Père par la force du Saint-Esprit qui nous pousse et qui nous met aussi en relation avec nos frères. De là découle toute notre morale, si je puis dire, toute notre ascèse, tout ce qui contribue à mettre en application et à nous mettre à la disposition de l'union que Dieu nous propose d'avoir avec lui. Et pour comprendre cela, je fais une parenthèse aujourd'hui, pour comprendre cela, il me semble qu'il est d'abord indispensable de comprendre un peu. Je dis un peu parce que moi-même, n'étant pas théologien ni philosophe, j'ai beaucoup de mal à trouver les mots qui permettent d'expliquer des notions qui, si elles sont philosophiques, sont par l'Église dépassées, dépassent la philosophie et expriment une réalité que je pressens, que d'autres m'ont enseigné, que d'autres m'ont montré, bien sûr, je ne l'ai pas inventé, mais je n'ai pas les mots pour le prendre. Et j'utilise aujourd'hui, je résume aujourd'hui un cours que m'a donné mon premier professeur qui m'a involontairement initié à l'orthodoxie. Et pour essayer de nous faire comprendre ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, la différence qu'il y a entre la nature et la personne. C'est un vaste sujet. Je donne juste quelques indications pour essayer au moins de vous ouvrir, d'ouvrir votre attention sur cette distinction indispensable à faire entre la nature et la personne. Si nous comprenons ça, vous mettrez votre vie à le découvrir. Mais si vous commencez à pressentir un petit peu la différence qu'il y a entre l'une et l'autre notion, appelons-les comme ça, vous pourrez plus facilement entrer dans la compréhension des épîtres de Saint Paul que nous allons continuer à commenter, et par là des mystères de l'Église, à commencer par celle de l'incarnation pour Noël, et tous les autres mystères de l'économie divine, c'est-à-dire de la relation qui existe entre Dieu et les hommes, et je pense que ça vaut le coup. Non seulement pas uniquement de le comprendre, parce que la relation avec Dieu ne passe pas directement par la connaissance intellectuelle en elle-même, mais par une expérience de cette relation. Mais pour en avoir l'expérience, on en jouit encore davantage, si évidemment on est capable d'en percevoir aussi quelque chose intellectuellement, même si là n'est pas le but. Parlons d'abord de la nature. Il y a des philosophes et des théologiens ici qui me contrediront peut-être. Comme ils sont plus savants que moi, je les laisserai dire. Mais dans mes catégories, dans mon vocabulaire, voilà ce que je peux vous en dire. On connaît, n'importe qui, connaît des natures, ou appelons-les, si vous voulez, des substances matérielles. L'eau, la terre, le bois, la pierre, le verre, le porcelain. Ça, ce sont des substances matérielles. Vous pouvez les connaître. Nous pouvons les connaître. Mais notre connaissance, cette connaissance-là n'est qu'une connaissance pratique. C'est une connaissance qui permet de gérer ces choses, de s'en servir, de les organiser, de les modifier éventuellement. J'ai la connaissance de ces substances matérielles et qu'est un verre, un gobelet. Et ça me permet de savoir que je peux boire avec, mais je ne vais pas me raser avec. J'ai essayé, mais vous voyez, c'était inefficace. Mais c'est une connaissance, si elle est pratique, qui est tout à fait limitée en même temps. Notre connaissance de la matière, c'est pas grand-chose finalement. C'est uniquement presque cette connaissance pratique, même si ça avance assez loin dans la science, jusqu'à créer des fusées, des bombes atomiques ou des découvertes sur les découvertes cosmiques. Mais vous savez bien, probablement, que la science dit, par exemple, aujourd'hui, que la nature est faite de vide, que la matière est faite de vide. Vous voyez, vous, du vide dans la matière. Et pourtant, entre les molécules, il y a effectivement du vide. Mais que vous êtes incapable, comme moi d'ailleurs, de déceler. Donc il y a des choses, pour des substances matérielles, qui sont inconnaissables pour nous. On parle maintenant même de matière noire. La matière noire qui représenterait une proportion énorme de ce qui est de la matière cosmique. Où elle est cette matière noire? Ces savants la cherchent encore. Ils la constatent, mais ils la cherchent. Mais venons-en à Dieu, puisque c'est là notre but. Quant à Dieu, lui, ce n'est pas une substance matérielle. Et pourtant, nous savons que Dieu a une nature. Nous parlons de la nature divine. Qu'est-ce que c'est donc? Vous comprenez bien qu'il est possible d'imaginer, le terme n'est pas bien choisi, de concevoir, disons. Il est possible de concevoir une nature, une substance qui soit immatérielle. Quand je dis immatérielle, ça ne veut pas dire de plus en plus légère. L'air est aussi une substance, beaucoup plus légère qu'un pierre. Mais l'air est toujours une substance. N'allons pas chercher des substances éthérées qui seront encore plus légères jusqu'à devenir invisibles ou impalpables. L'air est invisible, c'est palpable. Il peut y avoir des substances qui soient hors de ce qui est percevable à l'homme. C'est-à-dire que il n'est pas absurde qu'il puisse exister un autre ordre de la réalité. Il y a un ordre de la réalité qui fait des choses matérielles, des substances matérielles, des natures, de plus en plus légères, si vous voulez, mais quand même des natures matérielles. Mais il peut y avoir un autre ordre de la réalité qui soit totalement immatériel, des natures immatérielles. Il en va ainsi de notre âme. Il en va ainsi de la nature divine, qui n'est pas une substance de plus en plus fine, de plus en plus légère, de plus en plus éthérée, de plus en plus abstraite, mais qui est une réalité, mais qui est d'un autre ordre que l'ordre dans lequel nous vivons. Ainsi, il faut renoncer, de notre part, dans notre pensée, de notre étude, de notre réflexion, à la tentation de toute représentation à proprement dit. Nous ne comprendrons pas, nous ne comparons pas les natures différentes en fonction des substances matérielles ou immatérielles de plus en plus légères. Ces substances matérielles et immatérielles, ce n'est pas une question de degré, mais c'est véritablement un changement d'ordre d'être. Il y a une rupture. Il y a les êtres que nous connaissons, il y a un autre ordre d'existence, un autre ordre d'être. Et ce qui, pour Dieu, pourrait peut-être nous rapprocher le plus d'une compréhension de ce que peut être son être, sa nature, sa substance, appelons-la comme ça, ce serait ce qu'en dit Saint Jean dans sa première épître. Il dit que Dieu est amour, Dieu est lumière. Ah, en voilà des substances. Vous avez palpé l'amour? Vous avez palpé la lumière? Non, vous l'avez vu. Dieu est amour, c'est ce qui pourrait être en lui-même. Dieu est lumière, c'est ce qui peut être dans la mesure où c'est communicable, justement, où il communique quelque chose de sa nature. Mais bref, la nature divine serait donc lumière et amour. Vous voyez bien que ce sont des substances qui sont d'aucune manière matérielles. J'en viens, pour pas trop prolonger maintenant, si je me suis un tout petit peu fait comprendre, j'en viens maintenant à la notion de personne. En Dieu, nous disons qu'il y a une nature, un seul Dieu, mais en trois personnes. Mais ça ne fait pas trois dieux, ça fait qu'un Dieu unique. Qu'est-ce que c'est que la personne ? La personne, elle, en tant que personne, la personne elle-même, n'a pas de substance, elle n'a pas de nature. Mais ce n'est pas la personne non plus, n'est pas non plus du non-être, c'est pas de la non-existence. C'est l'Église, Saint Paul le premier, mais c'est l'Église qui, à travers son effort de compréhension des mystères que Dieu nous a révélés de ses relations personnelles, justement, avec son Père et avec l'Esprit-Saint, c'est l'Église qui, essayant de comprendre ça, notamment à travers les conciles, a inventé une catégorie nouvelle, a révélé, si je puis dire, une catégorie nouvelle, qui est la personne. La personne, on ne peut pas la connaître directement. Je ne peux pas connaître directement la personne de Luc, de Christophe ou de quelqu'un d'autre, de qui que ce soit, ni de la personne d'une personne divine. La personne, on peut pourtant en avoir une certaine expérience. Je peux avoir une certaine expérience de la personne de Christophe, de Jean-Marie ou de Denis. mais je ne connais, mais c'est pas une connaissance directe. La personne, ce qui fait la personne d'un individu, d'une substance, vous voyez, c'est le je, l'identité de la personne, le je, le tu, il. C'est ce qui fait que cet individu est une personne. Ce qui fait que c'est là où mon vocabulaire manque. C'est là où cet individu, cette matière, a une existence propre, a une conscience propre, et où en lui, quelque chose gère et domine ce qui fait domine ce qui fait sa, ce qui constitue sa nature. On peut connaître la personne d'un tel, de Titus ou de Quidam, mais on ne la connaît qu'à travers à travers son corps, à travers ses gestes, à travers son regard, à travers l'expression de sa pensée, à travers les conversations qu'on peut avoir, à travers ce qu'on voit de la nature de la personne qui s'exprime et qui exprime évidemment ce qu'il y a de plus profond en elle, c'est-à-dire sa personne. Mais pour connaître une personne, il faut qu'elle ait une substance, qu'elle s'exprime à travers, c'est-à-dire qu'elle s'exprime à travers sa nature. Par ailleurs, on connaît aussi des natures, des substances qui ne sont pas des êtres personnels. Ce verre-là n'a pas d'existence personnelle. Il peut être beau, il peut être pratique, il peut être tout ce que vous voulez, mais il n'a pas d'existence personnelle. Ce n'est pas une personne. On peut connaître une table, mais une table, un meuble n'a pas d'existence personnelle. On peut connaître les nuages, mais les nuages n'ont pas d'existence personnelle. La personne ne peut se mouvoir, ne peut penser, vouloir, sentir, souffrir, désirer, jouir, se souvenir, etc., 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 qu'à travers la nature qui est la sienne. Je peux être joyeux ou triste parce que, et vous de même, parce que j'ai, et vous avez une âme sensible qui a les capacités de ressentir la joie ou la tristesse. Mais quand je souffre, ma souffrance elle-même est quelque chose qui touche ma personne, qui passe à travers ma nature. Mais ce n'est pas ma nature qui souffre, c'est moi qui souffre. Tout ce que nos personnes éprouvent, nous l'éprouvons, comme je viens de vous le dire, à travers notre nature. Mais nos désirs, positifs ou négatifs, sont parfois contradictoires. Je pense que personne ne me contredira là-dessus. Voire quelquefois incompatibles. Par exemple, j'aime ma femme, mais je suis toujours en train de convoiter et de convoiter. Convoiter, merci. Je suis toujours en train de convoiter celle de mon voisin. Il y a dans nos vies, il y a une hiérarchie des valeurs. Le je, moi, ma personne, doit faire des choix. Il y a un ordre à établir. Il y a un ordre qui vient de moi, de ma personne même, et personne ne peut le faire à ma place, qui me permet de gérer tout cela, positivement ou négativement, à travers ma volonté, justement, notamment. Ma nature, certes, conditionne beaucoup ce que je suis, mais ce que je suis, ma personne, possède une part de responsabilité, un pouvoir décisionnel. Par rapport à ses sentiments ou à ses tendances de ma nature. Par nature, je suis colérique. La colère peut m'amener au meurtre. C'est ma nature, je n'y peux rien. Papa et maman m'ont ainsi conçu involontairement. Ou j'hérite d'eux aussi, parce qu'eux-mêmes étant comme ça, par leur libre choix, j'ai la malchance d'en hériter. Mais tous, nous héritons dans notre nature d'éléments positifs et d'éléments négatifs, chacun les nôtres. Mais ma personne a une certaine liberté par rapport à cela. Je peux être au-dessus, même si je continue, hélas, à être meurtrier, en laissant involontairement aller ma nature là où elle veut aller. Je peux me démarquer par rapport à ma nature et vouloir être au-dessus de ma nature et refuser d'être ce que ma nature est. Ne nous absolvons pas trop facilement pour autant. Ce n'est pas ça le but que je veux expliquer. Mais pour essayer de vous montrer que la personne elle-même, même si son degré de liberté dans sa nature est limitée, elle existe cependant, et une partie de l'éducation de notre vie, une partie de notre activité humaine, c'est d'apprendre justement à être libre par rapport à notre nature, à nous en servir pour exprimer ce que nous voulons exprimer, soit le bien, soit le mal, soit le bon, soit le mauvais, soit le beau, soit le moche. Ceci étant dit, nous voyons que, puisque la personne ne peut exister que dans une nature, il ne peut pas y avoir de relation entre personne et personne directement, mais seulement à travers les natures des personnes. Si un tel a des défauts, ça, c'est dans sa nature. Mais je constate que même si sa nature est déviée, est mauvaise, il n'y a pas que du mauvais chez lui. Il y a aussi une tentative d'essayer de dépasser sa nature que je retrouve quand il a des actes de bonté, des actes d'attention, par exemple, ou le contraire, évidemment. Donc, il faut que nous soyons attentifs à ne pas chosifier la personne, n'imaginons pas la personne. La personne n'est pas une sorte de nature secondaire qui viendrait se juxtaposer, se superposer à notre nature primaire, si je puis dire, principale. Ce n'est pas une nature plus profonde, plus secrète, qui se manifesterait de temps en temps, mais c'est un autre ordre, non pas d'être, parce qu'il n'y a pas d'être personnel, mais un autre ordre. Je ne sais pas comment on dit là. Il y a une autre. C'est une autre. Si je dis que c'est un autre ordre personnel, on dira que c'est une nature. Mais il y a une conscience, il y a une volonté, une conscience qui s'exprime à travers une volonté qui gère tout cela et qui est au-delà, qui est autre chose que la nature. Donc, je peux atteindre effectivement une personne, je peux comprendre, je peux percevoir, je peux aimer ou haïr, je ne vous conseille pas, une personne à travers les relations que j'ai avec elle, dans une attitude, dans un rapport dynamique. J'ai un rapport avec la personne à travers sa nature, mais j'atteins sa personne elle-même. Je sens sa personne elle-même. En conséquence, les personnes ne peuvent jamais, comme je l'ai dit, communiquer directement, s'unir ou se donner directement, de personne à personne. Mais on peut le faire, les personnes peuvent s'unir à travers leur nature. Elles ne peuvent communiquer entre elles qu'en s'exprimant à travers leur nature réciproque. Elles ne peuvent s'unir ou se donner qu'en s'unissant ou en se donnant mutuellement leur nature. C'est par la communion des natures que les personnes apprennent à se donner mutuellement. Ainsi, nous pouvons comprendre, j'en reviens à Dieu pour échapper aux catégories philosophico-théologiques, nous pouvons comprendre que l'union la plus totale peut être réalisée sans que les personnes soient amenées à se confondre. Par exemple, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, trois hypostases. Je dis le mot parce que c'est le mot qui est le plus juste théologiquement parlant. Ils sont trois hypostases. Trois sujets qui sont parfaitement distincts, trois libertés, si vous voulez, trois consciences de leur existence, et pourtant, substantiellement, dans leur nature, ils ne font qu'un. Il n'y a qu'une seule nature divine, mais il y a trois personnes qui portent ensemble cette unique nature divine, et la seule, ce qui pourrait être un enfer, mais qui justement est la gloire de Dieu, d'être unis tellement profondément qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont. Et l'un et l'autre se donnent mutuellement l'un à l'autre, s'obéissent, si je puis dire, subissent mutuellement, ce qui fait que librement, chacun d'entre eux met sa liberté au service des deux autres. Ils n'ont qu'une seule volonté, leur volonté n'étant pas de l'ordre de leur personne, mais de l'ordre de leur, n'étant pas de l'ordre de leur nature, mais de l'ordre de leur personne, qui volontairement, librement, consciemment choisissent de ne faire qu'un. Et ce mouvement d'unification, d'union, ne peut être autre chose que cet amour dont nous parlons. C'est par amour, évidemment, qu'il renonce chacun à lui-même, que chacun renonce à lui-même pour faire avec joie et librement la volonté des deux autres. Ceci n'est pas une invention, ce n'est pas une explication philosophique. Vous comprenez que ceci vient directement, nous a été directement révélé par les paroles que nous avons entendues du Christ à l'égard de son Père. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Etc., etc. J'ai pas collectionné aujourd'hui les différentes citations, mais vous les connaissez assez. Et je vous enverrai l'Esprit Saint, sachant à l'avance que l'Esprit Saint accepte joyeusement, volontairement, sa personne, la troisième personne de la divinité, accepte volontairement de descendre sur terre chez les hommes pour les transfigurer, pour les sauver, pour les unir au Christ. Et vous comprenez que si nous entrons dans ce cycle de relations de personnes à travers les natures, quand vous avez communié tout à l'heure, vous avez communié à la nature de Christ, mais il est indispensable aussi qu'à travers sa nature, vous atteigniez sa personne. Et c'est ainsi que votre relation, et la mienne aussi évidemment, que notre relation avec le Christ est une relation personnelle, de personne à personne, mais à travers votre nature et sa nature. Si bien que nous entrons les uns et les autres, nous entrons dans le même cercle glorieux d'union, de don l'un à l'autre, nous nous donnons au Christ comme le Christ se donne à nous, comme le Christ se donne à son Père avec l'Esprit Saint, et nous, il nous emmène vers son Père. Et c'est ainsi qu'en conséquence, si nous sommes, disons, logiques, si vous voulez, si nous allons jusqu'au bout des choses, puisque nous entrons dans ce cercle d'amour qui unit les trois personnes divines, puisque nous sommes en communion, ou nous essayons d'accepter d'être en communion avec elles, nous-mêmes, nous nous devons, à travers nos natures, pas toujours agréables, nous devons de faire un, de nous donner totalement, en renonçant totalement à nous-mêmes, aux autres, pour réaliser entre nous ce même amour entre nos personnes. C'est ainsi que les premiers Saint Paul nous dit que c'est ainsi qu'on reconnaît les chrétiens à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. De quel amour s'agit-il ? Il ne s'agit pas d'un amour affectif, il s'agit d'un amour beaucoup plus profond, d'une communion de nos personnes à travers nos natures qui ont toutes leurs richesses et leurs faiblesses.